Chapitre 2. Les premiers versets du chapitre 2 jettent une lumière vive et pénétrante sur les conditions de vie parmi les Juifs qui séjournaient à Jérusalem, les descendants de ceux qui étaient remontés de la captivité sous Zorobabel, Esdras et Néhémie. Le roi des Juifs est né à Bethléem et il reste des semaines sans rien en savoir. Que le roi Hérode l'ait ignoré n'est pas du tout surprenant. Il n'était pas un Israélite, mais un Iduméen. Mais les principaux sacrificateurs, en tout cas, auraient dû être informés de ce grand événement qu'ils professaient attendre, la naissance du Messie. En Luc 2, nous voyons qu'elle est proclamée du ciel, tout au plus quelques heures après qu'elle s'est produite, à des âmes humbles qui craignaient le Seigneur. « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent », a dit le psalmiste, psaume 25, verset 14. Les bergers et d'autres en fournissent l'exemple. Mais les chefs religieux à Jérusalem n'étaient pas de leur nombre. Ils étaient de ces orgueilleux que les hommes tiennent pour heureux, voir Malachie 3, versets 15 et 16. Ils étaient par conséquent dans la même ignorance que le méchant Hérode. Mais il y a pire. Il n'est pas étonnant, nous le répétons, qu'Hérode ait été troublé en apprenant la nouvelle, car pour lui c'était apparemment un rival qui élevait des prétentions à son trône. Pourtant, nous lisons qu'il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ainsi, la naissance du Sauveur a été non pas un sujet de réjouissance, mais de consternation pour le peuple même qui prétendait l'attendre. Il y avait donc là quelque chose de fondamentalement mauvais, puisque ce n'était alors que la réaction de leurs sentiments pervertis. Ils ne l'avaient pas vu et lui-même n'avait encore rien fait. Ils pressentaient seulement que sa venue allait plutôt mettre un frein à leur volonté propre que représenter l'accomplissement de leurs espérances. Ces hommes étaient pourtant tous bien versés dans les Écritures. Ils pouvaient donner une réponse prompte et correcte à la question d'Hérode et citer Michée 5, verset 2. Ils avaient la connaissance qui enfle et ne connaissaient, par conséquent, rien comme il faut connaître, voir 1 Corinthiens 8, versets 1 et 2. Ainsi, ils mettaient leur savoir au service de l'adversaire. Le grand dragon roux, Apocalypse 12, versets 3 à 5, de l'Empire romain, dont Hérode était le représentant local, se tenait prêt à dévorer le fils mâle, et eux, ils étaient là disposés à l'aider. C'est qu'ils avaient cette fausse sorte de connaissance des Écritures, et cela peut bien nous servir d'avertissement. Le passage qu'il cite place le Seigneur devant nous comme un conducteur qui paîtrait son peuple. En Michée, Israël seul est en vue, mais nous savons que la domination du Seigneur sera universelle. Nous avons là le troisième caractère sous lequel il nous est présenté. Nous voyons en Jésus, Dieu venu pour sauver, en Emmanuel, Dieu venu pour demeurer, dans le conducteur, Dieu venu pour régner. Sa pensée a toujours été de demeurer avec les hommes, dirigeant tout selon son bon plaisir. Et pour accomplir cela, il devait d'abord venir pour sauver. La naissance du petit enfant à Bethléem était le gage que chacun de ces trois caractères se réaliserait. Et si Jérusalem était ignorante et hostile, il y avait des gentils d'Orient, attirés par sa venue, qui ont reconnu en lui le roi des Juifs. Quelle condamnation terrible pour les chefs religieux de Jérusalem. Les bergers de Luc 2 apprennent sa naissance dans les quelques heures qui suivent. Les mages d'Orient, dans les quelques jours ou semaines tout au plus. Tandis qu'il faut attendre plusieurs mois avant que la moindre information sur ce qui s'était produit parvienne aux sacrificateurs et aux scribes. Dieu a parlé à ses sages, d'abord par une étoile, puis par un songe, mais il n'a rien dit du tout aux fanatiques de Jérusalem. Et pourtant, il y avait eu un temps où celui d'entre eux qui était souverain sacrificateur était en relation avec Dieu par les Urim et les Thummim. Maintenant, Dieu gardait le silence à leur égard. Ils étaient dans l'état qui nous est décrit en Malachie et probablement dans un état pire encore. En Hérode, nous avons un mélange de puissance sans scrupules et de ruse. Contrarié par la manière de procéder des mages, il pense parvenir à ses fins en faisant tuer tous les enfants de Bethléem. La fixation de la limite d'âge à 2 ans semblerait indiquer que la période entre l'apparition de l'étoile et l'arrivée des mages à Jérusalem a duré plusieurs mois. Son ordre impitoyable et méchant a été un accomplissement de Jérémie 31, verset 15. Si nous lisons ce verset dans son contexte, nous verrons que sa réalisation finale et complète aura lieu dans les derniers jours, lorsque Dieu mettra un terme aux larmes de Rachel en ramenant ses enfants du pays de l'ennemi. Néanmoins, ce qui s'est passé à Bethléem était analogue, quoique sur une plus petite échelle. Toujours est-il qu'Hérode s'oppose à Dieu, qui réduit à néant ses intentions en envoyant pour la deuxième fois son ange à Joseph dans un songe. Le petit enfant est emmené en Égypte, le premier verset d'Osée 11 trouvant ainsi un accomplissement remarquable, et Jésus commence à refaire l'histoire d'Israël. Dieu n'a eu aucune difficulté à déjouer les mauvais desseins d'Hérode, ni, peu après, à s'occuper d'Hérode lui-même. Matthieu ne s'attarde pas à nous décrire sa fin. Il nous rapporte simplement que, Hérode étant mort, l'ange du Seigneur s'est adressé une troisième fois à Joseph dans un songe, lui disant de retourner dans la terre d'Israël, celui qui cherchait la vie du petit enfant étant mort. L'intention première de Joseph était évidemment de revenir en Judée. Mais, apprenant qu'Archélaüs avait succédé à son père, la crainte le fait hésiter. Alors, pour la quatrième fois, Dieu lui donne des instructions par un songe. Et ainsi, Marie, le petit enfant, et lui-même sont ramenés à Nazareth, son lieu d'origine, comme Luc nous l'apprend. La manière dont Dieu a dirigé tous ces déplacements, en partie par des circonstances, tels le décret d'Auguste ou les nouvelles concernant Archélaüs, et en partie par des songes, est riche en enseignements. Les desseins de l'adversaire ont été ainsi déjoués. Malgré tout ce qu'il pouvait faire, le portier maintenait la porte de la bergerie ouverte pour que le vrai berger puisse entrer. Et les Écritures étaient accomplies. Non seulement Jésus a été conduit hors d'Égypte, mais il a été connu comme le Nazaréen. En fait, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a annoncé littéralement qu'il serait un Nazaréen, mais plusieurs ont dit qu'il serait l'objet du mépris et de l'opprobre. Aussi, le verset 23 nomme-t-il « les prophètes » et non pas l'un d'entre eux en particulier. Ils ont annoncé qu'il serait méprisé, ce qui, au temps du Seigneur, était exprimé par l'épithète « Nazaréen ». La nouvelle traduction anglaise de John Nelson Darby, l'édition complète avec notes, donne un commentaire précieux sur ce verset, en relation avec les termes exacts employés pour l'accomplissement. « En sorte que fut accompli », en contraste avec les expressions que nous avons trouvées précédemment au chapitre 1, verset 22, « afin que fût accompli », et chapitre 2, verset 17, « alors fut accompli ». Cela montre la précision avec laquelle les citations de l'Ancien Testament sont faites. C'est une note qu'il vaut la peine de lire. Voici cette note. Je fais remarquer également ici que les prophéties de l'Ancien Testament sont citées de trois manières qui ne doivent pas être confondues. La parole dit « afin que fût accompli »,« en sorte que fût accompli » ou « alors fût accompli ». Dans le premier cas, il s'agit du but même de la prophétie. Vous voyez Matthieu 1, versets 22 à 23, qui en est un exemple. Dans le second cas, « en sorte que fût accompli », il s'agit d'un accomplissement qui est dans l'intention de la prophétie sans que cela soit cependant la seule et complète pensée du Saint-Esprit. Matthieu 2, verset 23 peut servir d'exemple. Enfin, en troisième lieu, « alors fut accompli », il ne s'agit que d'un fait répondant à la pensée du passage qui s'y applique dans son esprit sans en être l'objet positif. Voyez chapitre 2, verset 17. Fin de citation. Nazaréen est le quatrième nom donné à notre Seigneur dans ce premier évangile. Nous avons vu qu'il est Jésus, Emmanuel, conducteur, mais il est également le Nazaréen. Dieu peut venir au milieu des hommes pour sauver, pour demeurer, pour régner, mais hélas, il sera méprisé et délaissé des hommes.